dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, le livre du Deutéronome, chapitre 6, ce sont surtout les versets 4 et 5 qui m'intéressent ce matin, et bien sûr, nous n'allons pas les prendre hors contexte. Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Donc après, au bout des 40 ans, avant d'entrer dans le pays promis, donc Moïse leur rappelle beaucoup de choses. Il leur rappelle les commandements que Dieu a donnés, tout ce que Dieu a fait pour eux, et les appelle à l'engagement. Donc Deutéronome chapitre 6, et je vais lire les versets 4 et 5 là tout de suite. Il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voilà. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. » Là, c'est-à-dire pour les Israélites, c'est ce qu'ils répètent peut-être aussi souvent que dans une autre église, ils répéteraient le Notre Père. Hein, c'est le schéma Israël, schéma qui veut dire écoute, schéma Israël, et que les Israélites répètent constamment dans leur culte, et c'est leur confession de foi. Mais bon, c'est pas le leur, c'est dans la Bible, c'est la nôtre aussi. Écoute Israël, ou écoute peuple de Dieu, parce que le vrai Israël, ce sont ceux qui le sont par la foi. L'Éternel, Jéhovah, à Moïse, il a dit « Je suis », celui qui est « Je suis », c'est-à-dire toujours au présent. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, dans le sens qu'il est unique, il est un. Et donc, c'est ce passage que Jésus cite un jour quand les scribes et les pharisiens viennent voir Jésus, et eux ont l'intention de lui poser un piège. Et alors, Les Sadducéens venaient d'essayer de lui poser un piège, et puis il a su répondre. Et donc les pharisiens viennent et ils lui posent la question et disent « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Et eux, certainement, ils s'imaginaient que ça allait être une discussion entre eux. Qu'est-ce qui est plus grave, voler ou commettre adultère ou ne pas honorer les parents ou pas garder le sabbat? Et certainement que c'était une question qu'ils avaient débattue et au point et sans arriver à une conclusion. Et donc là, ils allaient lui poser la question, le piège, et il a répondu tout simplement. Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il a répondu par cette parole-là. Il a cité la parole. Il a dit, et puis il y en a un second qui lui est semblable. C'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, là, ça rassemble toute la loi. Hein? Donc, c'est dans Matthieu 22, verset 37, que Jésus dit, hein? Il dit, mais voilà. Tu aimeras, il dit, tout le plus grand commandement, celui qui englobe tous les autres commandements, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est important pour nous le fait que Jésus l'ait repris, donc c'est-à-dire que c'est encore valable pour nous aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est un commandement intemporel. Et finalement, lorsque nous aimons l'Éternel de cette manière-là, et que nous aimons le prochain comme nous-mêmes, eh bien, finalement, il n'y a plus de problème avec les autres commandements, hein, on les réalise. Premièrement, ici, on voit qu'il nous dit « L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Et ce passage, ces deux versets expriment en quelques mots ce que Dieu recherche. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose sur nous. Hein, il nous oblige pas. Et c'est pour ça que le monde est ce qu'il est. Parce que Dieu ne s'impose pas. Il voudrait que les gens viennent à lui parce qu'ils le choisissent. La réalité, c'est que la majorité des gens ici dans notre pays ne se posent même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Ils préfèrent, c'est plus pratique pour eux de nier son existence ou au moins de vivre comme s'il n'existait pas. Et s'il n'existe pas, ou si on vit comme s'il n'existe pas, eh bien on n'a pas de compte à rendre et on n'a pas à chercher à savoir ce qui lui plairait. Presque on a le sentiment qu'il parie sur la non-existence de Dieu. Et ils arrivent à cette conclusion-là sans trop se poser de questions. Parce que, dans un sens, du point de vue logique, c'est pas plus facile de prouver que Dieu n'existe pas que de prouver qu'il existe. Mais il y a plein d'indications qui montreraient qu'il existe. Mais eux parient sur la non-existence de Dieu. Mais aussi souvent, leur comportement, c'est une réaction à ce qu'ils ont vu chez ceux qui se réclament de la religion. Hein, c'est Paul qui disait aux Juifs, dans Romains chapitre 2, verset 24, il dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé. » Hein, donc souvent, les gens rejettent Dieu justement parce que... il voit, il dit, ça c'est les croyants, regarde ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que nous? Et certains se servent de cela comme excuse pour ne pas suivre Dieu. Mais bon, c'est une excuse, c'est pas une raison valable. Et je dirais même pour celui qui veut semer du doute chez moi concernant ma confiance dans le Dieu de la Bible, eh bien, j'aimerais lui poser la question suivante. Qu'est-ce que je gagnerais à renier ma foi et à vivre la vie dans l'inconscience de Dieu? Si tout d'un coup, je décide que je ne crois plus en Dieu, qu'est-ce que ça m'apporterait que je n'ai pas? D'utile, de meilleur, qu'est-ce que j'aurai de plus que ce que j'ai? C'est vrai que si Dieu n'existe pas, on peut se permettre de mentir, on peut voler, on peut tuer, on peut faire toutes sortes de choses, mais bon, ça c'est pas des plus. Même le monde incroyant, athée, n'est pas pour cela. Qu'est-ce que j'aurai de plus si je reniais Dieu? J'ai aucune raison pour l'abandonner. J'ai tout en lui. Il ne m'empêche pas de jouir de la vie, ni de tout ce que la vie peut apporter, et tout ce qu'il a créé dans ce monde. Et donc, vous savez, vivre pour Dieu, eh bien, c'est l'épanouissement total. C'est moi, comme ça, je sais que j'ai tout ce que Dieu a prévu pour moi. Vous savez, l'être humain, parce qu'il n'est pas une machine, parce qu'il n'est pas un moteur, mais parce qu'il est humain, eh bien, il doit aimer. Il doit aimer. Et il a deux choix. Ou il aime Dieu correctement, et donc il aimera son prochain comme lui-même. Ou bien, il doit aimer le pouvoir, la richesse, les plaisirs charnels. Qui, l'un comme l'autre, ont cette influence et qui rendent l'homme égoïste, l'homme devient insensible aux autres. Celui qui recherche le pouvoir, eh bien, plus il cherche le pouvoir, moins il devient sensible aux besoins des autres. Celui qui cherche son plaisir personnel, eh bien, finalement, les autres perdent de la valeur. Celui qui cherche la richesse, eh bien, comme tout est pour lui, eh bien, les autres ils comptent pas. Hein, et ça, ce sont des choses qui recherchent, et tout ce qui se fait dans ce monde sans Dieu, eh bien, c'est soit cette recherche du pouvoir, du plaisir, de la richesse, et on finit par avoir un égoïsme. Et finalement, tout ce qu'on veut, qu'on est le centre de notre monde. Et je dis ça, c'est parce que quand les pensées que certains pratiquent sont poussées à l'extrême. Heureusement que tout le monde ne va pas à l'extrême, ce serait vraiment terrible dans ce monde. Mais quand ces choix sont poussés à l'extrême, ça rend insensible. Tandis que lorsque j'aime Dieu, lorsque je reconnais Dieu et Dieu à sa juste place dans ma vie, eh bien là, tout d'un coup, je deviens plus sensible aux autres. Non seulement est-ce que l'être humain, naturellement, veut aimer, mais en plus, il a besoin d'être aimé. Et souvent, c'est ça les problèmes. Tu m'aimes pas, ben je t'aime pas non plus. Hein, c'est du donnant-donnant. Et quand tu ne m'aimes plus, eh bien, moi aussi, je t'aime plus. Mais c'est pas cet amour-là dont il parle. Dieu, eh bien, nous aime. Hein, combien de fois il y a eu des vies qui ont été sauvées parce que on a pu dire à la personne, mais tu sais, même si tu te sens aimé de personne sur terre, mais tu es aimé de Dieu. Dieu aime. Et Dieu a démontré son amour. Hein. Dieu prouve son amour envers nous que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà combien Dieu nous aime. Hein. C'est pour prendre l'image de la croix, Jésus sur la croix et dit je vous aime tant. Et lorsque on se demande, on dit que Jésus avec le pouvoir qu'il avait, pourquoi il est resté sur la croix? Et même les gens lui ont dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il n'est pas descendu. Pas parce qu'il ne pouvait pas descendre, mais il a dit, je vous aime trop pour descendre. Hein? C'est son amour. Finalement, c'est son amour pour les pécheurs qui l'ont retenu sur la croix plus que les clous. Et Dieu est amour. C'est pas seulement qu'il aime, mais il est amour. C'est sa nature. Et tandis que, eh bien, vous ne pouvez pas dire que le pouvoir, la richesse, les plaisirs stimulent l'amour, bien au contraire. Et donc, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu et il nous invite à aimer. Moïse a confronté Pharaon à l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Hein, la première fois que Moïse se présente à Pharaon et dit, écoute, le Dieu des Hébreux nous demande d'aller offrir des sacrifices. Et Pharaon lui dit, mais c'est qui le Dieu des Hébreux? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Hein. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'avait rien vu dans leur comportement qui puisse lui donner l'indication qu'ils avaient un Dieu. Il dit, tiens, c'est la première fois que j'entends parler du Dieu des Hébreux. C'était tellement grave, ils étaient arrivés au point. Le seul souvenir qu'ils avaient, oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais vous savez, ça remontait à 400 ans. Hein. C'est-à-dire, le dernier souvenir que vous avez de votre Dieu, c'est des générations, hein, une dizaine de générations. Abraham, Isaac, Jacob. Pharaon dit, mais moi, j'ai vu aucune indication. Il arrive à me prouver qu'il y ait un Dieu. Bon, ce qu'il en a vu, c'est ce qu'on voit, c'est qu'avant d'arriver à la dixième plaie, eh bien, Pharaon se rend compte qu'il y a un Dieu des Hébreux et qu'il est puissant. Parce que déjà, les magiciens de Pharaon avaient réussi à imiter certaines choses que faisait Moïse, mais il y a un moment où ils ne peuvent plus et ils disent. Dans Exode 8, verset 15, il dit « C'est le doigt de Dieu. » Ce Dieu-là, il existe. Peut-être qu'eux, on ne l'a pas vu dans leur vie, mais il existe. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas évident, ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'il n'existe pas. Et en fait, au travers des plaies, les plaies n'étaient pas seulement pour Égypte, mais aussi les plaies, c'était là pour démontrer aux enfants d'Israël qui était Dieu. Hein, qui voit. Et eux, ils étaient aussi ignorants que Pharaon. La différence, c'est que lui, il n'a pas accepté, tandis que eux, eh bien, ils ont commencé à le reconnaître. Et les enfants d'Israël étaient en train de découvrir qu'ils avaient un Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, le seul Éternel. Alors, c'était un peu l'expérience qu'a eue le roi Darius lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et le lendemain matin, Darius arrive, parce que c'est quand même ça l'embêtait. Il aimait bien Daniel et ça l'embêtait de l'avoir jeté dans la fosse aux lions. Et normalement, il n'y avait aucun survivant. Mais il est quand même revenu le lendemain matin, puis il a dit « Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te préserver des lions ?» Et Daniel répond « Il a fermé la bouche des lions. » Et donc, bien sûr, on a donné l'ordre de le sortir. Et puis, ceux qui avaient instigé cette loi, eh bien, le roi, il les a fait jeter dans la fosse. Et là, il n'y avait personne pour retenir les lions. Mais après cette expérience, il nous dit dans Daniel chapitre 6, verset 26, il dit, c'est ce Darius, ce roi païen, qui dit, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Là, Darius, un roi païen qui n'avait aucune prédisposition pour croire, mais là, quand il a vu cela, il a dit, le Dieu de Daniel, je ne sais pas comment il s'appelle, mais le Dieu de Daniel, celui duquel il se réclame, celui qu'il suit, celui qu'il obéit, eh bien, c'est un Dieu c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu qui subsiste éternellement. Je lisais le témoignage d'une jeune fille, une dame maintenant, qui disait ce qu'elle trouvait extraordinaire dans la première fois qu'elle était exposée à l'Évangile. Elle s'est dit, j'ai trouvé un Dieu qui entend et qui répond. Un Dieu d'amour qui cherche notre bien. Pas un Dieu qui est là constamment en train de regarder tous nos actes et nos comportements et tout cela pour savoir combien nous punir. Mais c'était un Dieu qui cherche notre bien. Elle a dit, c'est ça qui m'a attiré à l'Évangile. C'est le Dieu de l'Évangile. Hein, donc, c'est... À regarder notre monde, on dirait, si on prétend qu'il y a 300, je crois que De Gaulle disait 360 fromages en France, il dit comment voulez-vous rassembler les Français, mais je crois qu'il y a plus que ça de différents dieux. Hein, chacun a son idée de qui Dieu est. Hein, il dit pour moi, Dieu, c'est ceci. Pour moi, Dieu, moi, Dieu, non, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois comme ça. Et peu importe comment tu le vois. Ce qui importe, c'est comment il est. Hein? Et il faut traiter, pas avec ce qu'on imagine, mais avec la réalité. Et il nous dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Il n'y a que lui. Et il n'y a pas besoin de se soucier des autres. Mais c'est le Dieu qui est révélé dans l'Écriture, hein, et pas celui de notre imagination. Dieu est Dieu unique, Dieu veut que je l'aime. Hein. Il dit, tu aimeras, c'est Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il veut que nous, on l'aime. Vous n'êtes jamais posé la question de dire, mais est-ce qu'on peut donner un ordre pareil à quelqu'un? Hein, vous pouvez dire à quelqu'un, aime. C'est dans le pouvoir de qui? De pouvoir dire à quelqu'un, aime. Déjà, quand vous dites à un enfant, dites, aime les épinards. vous pouvez amener toute l'armée du monde que vous voulez, le plus puissant, et vous ne pourrez pas l'obliger à aimer. Maintenant, vous pouvez, soit par la menace, soit par la récompense, vous pouvez l'amener à manger les épinards. Hein? Mais aimer, ça c'est son choix. Aimer est un choix. Personne ne peut nous obliger. Hein? Et Dieu, mais Dieu dit, tu aimeras l'Éternel. En fait, il est en train de dire, je veux que tu fasses ce choix. Hein? Si tu attends que ça se développe en toi, que tu aies des sentiments, tout ça. Non, non, c'est un choix. C'est moi qui fais ce choix d'aimer Dieu. Et c'est un choix que chacun doit faire. Personne ne peut m'obliger. Je peux faire semblant. Je me souviens avec... il y avait une... Mon épouse avec les enfants, là, ils avaient une petite règle. Ils ont dit, écoute, si tu n'aimes pas, je t'en donne plus. Et après, elle a retiré cette règle parce qu'elle la trouvait pas très bonne, parce qu'elle faisait des menteurs de ses petits anges, de mes enfants, parce qu'elle disait, maman, c'est bon, des hypocrisies, mensonges et tout. Hein. Et donc, on peut pas obliger. Hein. Mais c'est pareil, et Dieu ne s'impose pas. Il dit non, c'est vous de choisir, c'est vous qui décidez de m'aimer. Et une fois que nous sommes amoureux de Dieu, une fois que nous l'aimons, il n'y a aucune persécution ni torture qui pourra nous retirer cet amour. Hein. Les disciples eux-mêmes sont tous morts en martyrs parce qu'ils aimaient Dieu et ils aimaient Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus les avait laissés bien des années avant. Hein. Il était monté au ciel, il est parti, ils l'ont vu partir. Mais eux, ils étaient convaincus et ils étaient prêts à l'aimer. Ils avaient fait ce choix de l'aimer et ils l'ont aimé jusqu'au bout. Non seulement est-ce que Dieu nous dit de l'aimer, mais il nous dit combien il faut l'aimer. Hein? C'est pas il dit « aime Dieu ». Ben, j'aime Dieu. Oui, mais combien est-ce que tu aimes Dieu? Lui nous a dit combien, il nous a démontré combien il nous aime. Mais là, il nous dit comment aimer Dieu. Et vous savez, dans notre culture, on aime, pour nous, l'amour est dans le cœur. Je ne sais pas où, mais en tous les cas, c'est dans le cœur. Et là, dans quelques jours, vous allez avoir la Saint-Valentin. Et il y aura plein de petits cœurs rouges et roses et tout ça, c'est que des cœurs. On a cette idée, aimer c'est avec le cœur. Mais vous savez, Dieu il en demande bien plus que ça. Hein. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour Dieu, aimer avec son cœur, ça ne suffit pas. Hein? Vous savez combien il y a de personnes dans la vie de tous les jours qui, il y a un temps où ils s'aiment. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis, ils sont prêts à même passer devant un juge, passer devant un maire, et puis dire, on s'aime. J'aime de tout mon cœur. Et puis là, alors, il y a des cœurs de partout, dans ce mariage, il y a des cœurs dans tous les sens. Et puis après, quelques années plus tard, on les retrouve devant le juge, et dit on ne s'aime plus. Et on veut être libéré pour partir de notre côté. On ne s'aime plus. C'est-à-dire que aimer avec le cœur, ça ne suffit pas. Parce que le cœur, ça ne suffit pas. Hein? Et Dieu dit, non, vous ne m'aimez pas avec rien que le cœur. Déjà, Dieu, c'est pas mal, hein? Tu devrais être content de ça. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement avec le cœur. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu aime de tout son être. C'est pas seulement qu'il aime, mais il est amour. Il ne peut pas être autrement que aimer. Et donc, il nous demande en retour Il dit que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Le cœur, dans notre culture, en tous les cas occidentale, le cœur, ça représente les sentiments, hein. Et donc on aime avec les sentiments, et c'est peut-être pour ça que ça ne dure pas longtemps, parce que nos sentiments, ça vient et ça part. Mais dans la culture hébraïque, le cœur, c'était le siège pour les pensées aussi. Il ne parlait pas du cerveau. Nous, on dit les pensées, c'est dans le cerveau, c'est dans la tête. C'est une autre manière de dire, hein. Mais pour eux, c'était dans le cœur. Ils parlent des pensées du cœur. Et donc, quand il dit « tu aimeras de tout ton cœur », il ne dit pas « tu m'aimeras avec tes sentiments ». Non, non, il dit « tu m'aimeras avec, hein, nous on dirait, toute ta pensée ». Et puis après, de toute ton âme, c'est là où tu as les sentiments. Et puis de toute ta force, c'est-à-dire jusqu'à, ça se retrouve même dans tes gestes physiques. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ce qui te compose. Et si je l'aime de cette manière-là, alors ça change tout. Nous sommes censés d'aimer Dieu avec tout notre être, sans rien laisser à autre chose. Et si j'aime Dieu de cette manière-là, je vais aimer tout ce que Dieu aime. Et vous connaissez Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde, hein, ». Et finalement, personne n'exclut. Tandis que vous prenez l'amour chez les hommes, cet amour avec « j'aime avec mon cœur », eh ben, j'aime pas, aujourd'hui j'aime, demain je n'aime plus, celui-là j'aime pas, ah ben, aujourd'hui j'ai besoin de lui donc je l'aime bien, demain j'ai plus besoin de lui, il me dérange, il me fatigue, je l'aime plus. C'est ce genre de choses, c'est pas comme ça qu'on aime Dieu et c'est pas comme ça que Dieu nous aime. Il veut qu'on l'aime de tout notre être. Et lorsque nous aimons Dieu de tout notre être, eh bien nous aimerons plus et mieux notre épouse, nous aimerons plus et mieux nos enfants, nous aimerons plus ceux qui nous entourent. Et Jésus a même parlé, il a osé même dire, il dit « aimez vos ennemis ». Ben ça, c'est pas un amour avec le cœur, hein, comme de la Saint-Valentin, hein, c'est du truc, comme j'ai dit une fois, hein, c'est j'appelle ça l'amour félin. Hein, c'est le chat, quand vous êtes en train de couper du poisson, il, tout d'un coup, il vous fait des caresses. Quand il n'y a plus de poisson, il n'est plus là. C'est intéressé. Et donc, là, c'est pas cet amour-là que Dieu veut. Hein. J'ai besoin de toi. Oh Dieu, tu sais, je t'aime beaucoup. Hein. Parce que j'ai un examen et je voudrais réussir. Oh Dieu, je t'aime beaucoup. Il dit, et puis quand il n'y a plus de poisson, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, j'ai plus besoin. Hein. Une fois que l'examen est passé, j'ai plus besoin. Non, non, mais c'est pas de cet amour-là. Il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ce que tu peux ressentir et de toute ta force et ton être physique. Et lorsque la meilleure manière d'aimer ceux qui nous entourent, c'est d'aimer Dieu. Parce que plus on aime Dieu, plus on aime ceux qui nous entourent. Moins on aime Dieu, plus on devient égoïste. Et Dieu dit, pour votre bien, pour votre santé morale, physique, psychique, tout, je vous encourage, aimez Dieu. Et ce sera la santé pour nous, c'est aimer Dieu. Et lorsque j'aime Dieu, j'aime tous ceux qui sont autour. Vous avez affaire avec quelqu'un qui aime Dieu, et vous pouvez vous attendre à beaucoup plus de cette personne que celui qui dit « Moi, Dieu, c'est rien du tout. J'aime ceux qui me rendent service. » Et après, on arrive à des choses aberrantes où on fait plus pour sauver des animaux que pour sauver des êtres humains. et tout pour le fait de bien traiter les animaux, mais traitons les hommes, au moins déjà commençons par bien traiter les hommes. Hein, et on a des hommes qui, dans le froid, qui dorment dehors, et puis, mais on ne veut pas qu'il y ait d'animaux qui soient dans le froid. Et c'est quelque part, l'être humain vient avant. Hein, donc, mais c'est quand il y a l'amour de Dieu, après, les choses prennent leur place et leur ordre de priorité. Et ce n'est pas, et c'est pas sélectif, ça devient, c'est un amour qui englobe tous. Si vous lisez dans l'histoire, ce sont toutes les œuvres sociales, ça a été commencé par des croyants. Hein, la Croix-Rouge, vous regardez la Croix-Rouge, ben, c'était un croyant qui a commencé ça. Maintenant, bon, on ne parle plus de l'aspect religieux, mais s'il a commencé ça, c'est parce qu'il était croyant. L'armée du salut qui s'occupait des clochards et des gens ivres et de tout cela à Londres, William Booth, qui a commencé cela, eh ben, c'était pour Dieu qu'il l'a fait. Il y a quelque chose. Lorsqu'on met Dieu à sa place, les autres choses prennent leur juste place. Et donc, quand Jésus a dit, écoute, si il fallait rassembler et dire en une règle, celle qui englobe tous les autres, eh bien, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta force. Il ne dit pas qu'il faut prier 5 fois par jour, il ne dit pas qu'il faut aller à l'église tous les dimanches, il ne dit pas, non, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et c'est ça, c'est par là qu'il faut commencer et le reste se mettra en place. Et donc Israël est en train ils vont rentrer dans la terre promise et il veut qu'ils commencent bien, qu'ils mettent les choses en ordre. Et dans notre vie aussi, c'est comme cela. Et donc, comment l'aimer ? Comment aimer Dieu ? Comme nous devons l'aimer. Eh bien, il nous dit, c'est en gardant ses commandements. Quelque part, ce passage se trouve dans un contexte, et donc je vais lire là, Deutéronome chapitre 6, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et regardez, dans ce contexte qui enveloppe ce passage, nous lisons, eh bien, c'est toute une question de garder les commandements. Verset 1. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Ça ne veut pas dire que tu vis plus longtemps, mais que votre séjour dans le pays durera plus longtemps. Parce que dès que nous voyons par la suite, dès qu'ils s'éloignent de Dieu, eh bien, ils sont chassés du pays. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de ton père, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Bon, actuellement, vous allez dans une famille israélite et tout ça, ce sera mis littéralement. Hein, mais ce qui importe, il dit, c'est que ces commandements, c'est ce que Dieu désire, c'est là devant toi tout le temps. Parce que tu veux. C'est comme ça que tu montreras ton amour, c'est en obéissant. C'est tout à fait ce que Jésus a réaffirmé dans Jean chapitre 14, verset 15, dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour Dieu, ce n'est pas aimer Dieu, c'est pas dites-le avec des fleurs. Peut-être pour les épouses, on peut le faire. Mais c'est pas dites-le avec des louanges le dimanche. Mais c'est dites-le par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça que je lui montre mon amour. Les paroles, vous savez, hein, on se connaît, ça pèse pas lourd. Mais quand il y a des actes, quand il y a des actions qui suivent, alors ça c'est autre chose. Hein. On a tous vécu l'expérience d'avoir des promesses. Ah, oui. Puis après, rien du tout. Les promesses étaient belles quand sur le moment, mais quand il fallait les encaisser, bon, ils n'étaient plus là. Ah non, je ne peux pas, je ne suis pas libre, non. D'accord. On a tous été déçus de cette manière-là. Mais il dit, c'est l'obéissance. C'est les actes qui comptent. Dis-le avec des actes, pas avec des paroles. Ne nous fions pas à nos pensées. Parce que nos pensées, il faut l'admettre, d'abord, il nous dit dans Ésaïe 55, il nous dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Il dit, écoutez déjà, vous savez, admettez que vous avez votre pensée, votre manière de penser a été déjà moulée par une société dans laquelle vous vivez, par des expériences que vous avez vécues. Tout ça, ça a modelé votre pensée. Et il dit, c'est pas forcément juste. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Naturellement, on n'a pas nos pensées. Ce qu'on veut, c'est une fois qu'on a rencontré Dieu, c'est de nous adapter à sa pensée. Et un peu comme l'enfant qui, après son examen, il rentre à la maison et puis il voit qu'il a mis faux sur en géographie. Alors il prie Dieu et dit, Dieu, fais que Rome soit la capitale de l'Espagne. C'est pas Dieu qui doit changer. Non, c'est à nous de nous aligner sur sa pensée. Parce que si Dieu devait écouter des prières comme ce petit jeune-là, ce serait, hein, on ne saurait plus comment imprimer les cartes. Hein. Parce que l'autre, il a fait une erreur autrement, et puis l'autre... Non. C'est à nous de nous aligner sur... c'est comme le maître. Il y a à Paris, il y a le vrai maître. Comment on appelle ça ? Les talons, voilà. Ça, c'est le vrai maître. Maintenant, c'est à nous tous de nous débrouiller pour avoir un maître qui soit exactement équivalent. C'est pas à nous, c'est chacun dit, oh, mais moi, un maître, c'est à peu près comme ça, hein. Moi, c'est de là jusqu'au nez. Bon, c'est vrai pour moi, mais bon, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Mais, non, c'est les talents qui décident. Hein. Donc, pour nous, les talents, c'est la parole de Dieu. Et c'est à nous de nous aligner, et plus on s'aligne dessus, plus on aura quelque chose d'exact. Et nous devons vivre selon ces principes bibliques. Et donc, d'où l'importance de constamment être en train d'étudier la parole, de comprendre et pour le suivre. Je regardais une vidéo de gendarme et il arrête quelqu'un qui est en train de... qui est au téléphone. Et alors le gendarme me dit, ben monsieur, hein, c'est une amende, en plus, vous perdez 3 points. Il dit, oh non, c'est pas normal, c'est ça, je faisais tranquille, doucement. Il dit, mais monsieur, c'est... Vous savez... un accident sur quatre, c'est causé par des gens qui sont au téléphone, et puis voilà, on peut pas. Mais monsieur, vous prenez mon 3 points, moi je travaille, j'ai besoin de... mais il vous reste combien? Ben, il me reste que 3 points. Ah ben alors la voiture restera là. Tout... Ouais, non, mais c'est sévère ça pour le téléphone. Mais c'est la loi. Hein, le gendarme il dit, c'est la loi. Et c'est à nous aussi de... On a l'habitude, dans toute notre vie est gérée par... Il y a des règles, il y a des lois, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent avec Dieu? Hein, je me conforme aux choses dans la vie de tous les jours, et après avec Dieu, on dit, oui, mais Dieu, moi je suis pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu... Mais ce n'est pas juste. Et donc, d'où cette pensée du psalmiste dans le psaume 119 qui dit « Mon âme est attachée à la poussière ». Il a dit « Moi, naturellement, je vais vers les choses terrestres. » Mais il dit « Rends-moi la vie selon ta parole. » C'est le psaume 119, verset 25. Il dit « Moi, mon âme, si je le laisse faire, il va vers le bas. » Il dit « Rends-moi la vie selon ta parole. » La vraie vie, vivre. Et ça, c'est selon la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans Romains 12, dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc c'est raisonnable. Je lui donne ma vie. Je dis, voilà, je t'aime de tout mon cœur, mon âme et ma force. Il dit, c'est raisonnable. Ça, c'est, oui, tu n'as rien fait d'extraordinaire, c'est normal. Et verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde présent, le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsque je vis selon la parole de Dieu, quelqu'un peut s'amener et dire, non, mais écoute, ça c'est... Je lui dis, qu'est-ce que tu m'offres de meilleur comme vie? Est-ce que tu as quelque chose de meilleur que ce que je vis? Quel avantage que tu donnes? Ah ouais, mais bon, c'est strict tout ça. Eh oui, mais je vis bien, je vis heureux, je vis de manière ordonnée. J'ai un autre comportement vis-à-vis des autres. Ce que tu me proposes là, est-ce que ça rend meilleur que ce que je cherche à être? Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis si ça ne suffit pas, si tu en veux encore un peu plus, eh ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, ce serait peut-être toute une autre réflexion là. Mais aimer Dieu, comment l'aimer, combien l'aimer, et n'aimer que lui, lui seul. Et cela, vraiment, c'est pas... vous savez, souvent, nous, chrétiens, On est bien sûr qu'on croit en Dieu, mais trop souvent on se comporte comme si on n'était pas croyant en Dieu. On fait les choses que font les autres et on vit comme eux. Et puis on croit en Dieu, eh bien il faut vivre comme si on le croit. Et que le monde puisse dire, mais moi la religion ça m'intéresse pas, mais lui quand moi il vit bien. Hein, c'est quel qu'il puisse rendre ce témoignage. Moi, je ne demande pas plus. Après, c'est son problème. C'est comme Darius qui dit, ben Daniel, le Dieu de Daniel, là, s'il y en a un bon, ben c'est celui-là. Parce que là, je vois autrement un autre comportement que chez ailleurs. Donc, ne voulons pas le Dieu d'une religion, nous voulons le Dieu de la Bible et nul autre. Et c'est lui qui met de l'ordre dans notre pensée, qui met de l'ordre dans notre âme, et qui met de l'ordre dans notre vie de tous les jours. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui et soyons fidèles et que le Seigneur nous aide à l'aimer toujours plus de tout notre être et ne pas être partagé. Parce que si vous continuez à lire dans le même chapitre de Deutéronome 6, il dit que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, c'est de la bonne jalousie. C'est la jalousie qui dit, moi, je ne partage pas. Ce qu'il n'y a pas à partager, je ne partage pas. Et c'est pour ça qu'il parlait toujours de l'idolâtrie. Quand ils adoraient d'autres dieux, il parlait toujours ça d'adultère. Il disait, pour lui, c'était de l'adultère. Parce que c'est de l'infidélité. C'est, je suis un dieu jaloux et je ne tolère pas cela. Et donc, mais lui se donne uniquement à nous et il nous donne tout et remercions le Seigneur. Nous allons nous donner quelques moments et dire Seigneur, peut-être qu'on a besoin de dire Seigneur, aide-moi à mieux t'aimer, à plus t'aimer, à toujours t'aimer et t'aimer en toutes choses. Et que chacun puisse formuler sa prière à sa manière selon son besoin ce matin. Et ensuite, je prierai.